Troisième partie. La conversion. Réalisez vos projets. Chapitre 8. L'art de l'exécution créative. Les produits créatifs sont toujours brillants et nouveaux. Le processus créatif est ancien et immuable. Silvano Arietti, psychiatre et auteur de Creativity, The Magic Synthesis. J'ai eu la chance de grandir dans une famille multiculturelle entourée d'art et de musique. Ma mère est une chanteuse et guitariste originaire du Brésil, et certains de mes premiers souvenirs sont ceux de sa voix de soprano, interprétant de magnifiques mélodies portugaises au son de sa guitare classique. Mon père est un peintre professionnel, né aux Philippines. Ses toiles pleines de fruits colorés, de paysages verdoyants et de figures monumentales couvraient tous les murs de notre maison, lui donnant une ambiance de galerie d'art. Jamais il n'a collé au stéréotype de l'artiste torturé, lunatique, imprévisible, maussade et peu fiable. C'est au contraire l'une des personnes les plus ordonnées et responsables que j'ai jamais rencontrées, qui avait mis en place des routines rigoureuses pour pouvoir poursuivre sa vocation créative tout en s'occupant de sa famille. Non seulement cette constance n'enlevait rien à l'inventivité fantastique de son œuvre, mais elle y contribuait. Il utilisait aussi un ensemble de ce que j'appellerais stratégie, des habitudes et des astuces destinées à intégrer la créativité à chaque aspect de sa vie et à stimuler cette dernière chaque fois qu'il trouvait le temps de peindre. À l'église, il croquait les histoires bibliques discutées au cours des sermons dans un petit carnet. Ses esquisses constituaient souvent le point de départ d'imposantes œuvres de 2 à 3 mètres de haut. Quand il faisait les courses au supermarché, il ramenait des légumes aux formes inhabituelles pour les incorporer à ses natures mortes. Nos aliments servaient régulièrement de modèle avant d'être consommés. Souvent, le soir, lorsque nous regardions la télévision en famille, je le surprenais à étudier le mur de notre salon où il avait accroché une toile en cours de réalisation. Le fait de la considérer sous un angle nouveau et du coin de l'œil lui permettait de mieux voir ce qui lui faisait défaut. Mon père planifiait donc sa créativité et mettait en place des stratégies pour mieux la convoquer. Lorsqu'il était temps d'avancer sur une peinture, il se concentrait entièrement dessus. Mais il n'y avait qu'à ces moments-là qu'il faisait fonctionner son imagination. La plupart du temps, quand il ne peignait pas, il collectait, passait au crible, recombinait et réfléchissait à la matière première de sa vie quotidienne, de sorte qu'au moment de créer, il avait largement de quoi faire. Cette attention portée à l'organisation de ses influences créatives a alimenté une œuvre prolifique, composée de milliers de peintures créées au fil des décennies, tout en lui laissant largement le temps d'assister à nos matchs de football, de préparer de délicieux repas et de voyager en famille. Ce qu'il m'a appris, c'est qu'au moment de s'asseoir pour faire avancer un projet, tout le travail de collecte et d'organisation du matériau source doit déjà avoir été fait. Il est vain de nous attendre à trouver instantanément des idées brillantes sur commande. Il m'a aussi appris que l'innovation et la résolution de problèmes dépendent d'une routine qui fait systématiquement remonter les idées intéressantes à la surface de notre conscience. Toutes les étapes de la méthode CODE n'ont qu'un seul et même but, vous aider à tirer profit de vos outils numériques, de façon que votre cerveau humain, faillible et infiniment créatif, se concentre sur ce à quoi il excelle, imaginer, inventer, innover, créer. Se construire un second cerveau consiste en fait à standardiser notre façon de travailler, parce que ce n'est qu'ainsi que nous pouvons progresser. Pour nous muscler, nous devons soulever des poids d'une manière bien précise. Pour ne pas avoir à réinventer la roue à chaque fois, les musiciens s'appuient sur un système de notes et de signatures temporelles standardisées. Pour améliorer son écriture, il faut suivre les conventions orthographiques et grammaticales en vigueur, même si l'on finit par décider de s'en abstraire pour des raisons stylistiques. En recueillant des idées, en les organisant par catégories, en les distillant pour n'en retenir que le meilleur et en les assemblant pour créer de la valeur pour autrui, nous nous entraînons aux gestes de base de travail de la connaissance, ce qui nous permet de progresser au fil du temps. Cette routine, standardisée, est connue sous le nom de « processus créatif ». Et elle fonctionne selon des principes immémoriaux. Identifier ceux qui résistent à l'épreuve du temps en dépit des considérables révolutions technologiques sous-jacentes permet de mieux comprendre la nature essentielle de la créativité. Les produits de cette créativité changent constamment et il y a toujours une dernière mode après laquelle il nous faut courir. Une année, ce sont les photos Instagram, celle d'après, les stories Snapchat, puis les vidéos TikTok, etc. Aucun médium n'est éternel. Même la forme romanesque qui s'appuie sur une longue tradition a évolué au cours du temps. En revanche, si l'on descend au niveau du processus créatif, c'est une toute autre histoire. Il est ancien et immuable, le même aujourd'hui qu'il y a des milliers d'années, et les enseignements que nous pouvons tirer de ce niveau plus profond transcendent à la fois les supports et les outils. Ainsi, l'un des schémas les plus importants qui sous-tendent le processus créatif est celui de divergence et convergence. Divergence et convergence. Un exercice créatif d'équilibriste. Considérez n'importe quel processus créatif et vous verrez qu'ils suivent tous le même mouvement, une alternance de phases de divergence et de convergence. Un projet créatif commence par un acte de divergence. Vous ouvrez le champ des possibles et considérez un maximum d'options. Comme Taylor Swift avec ses notes, Twyla Thorpe avec ses boîtes, Coppola avec sa Bible et Octavia Butler avec ses mementos, en compilant différentes sources d'inspiration, vous vous frotterez à des influences nouvelles. Vous explorerez des chemins inconnus et vous pourrez discuter avec autrui de ce qui vous occupe l'esprit. Le nombre de choses que vous regardez et évaluez augmente. Vous divergez de votre point de départ. Cette phase, nous la connaissons tous. C'est celle où l'on couvre le tableau blanc de croquis, où la poubelle à côté du bureau de l'écrivain se remplit de brouillons froissés en boule, où le photographe dispose devant lui, à même le sol, des centaines de clichés. Comme l'objectif de la divergence est de générer de nouvelles idées, cette étape est forcément spontanée, chaotique et désordonnée. Vous ne pouvez pas planifier ou organiser ce que vous faites à ce moment-là, ni ne devez tenter de le faire. C'est le moment d'explorer. Aussi puissante et nécessaire que soit la divergence, si vous vous arrêtez là, vous n'arriverez nulle part. Comme Francis Coppola le faisait avec le roman Le Parrain quand il soulignait certains passages et en biffait d'autres, à un moment, vous devez commencer à écarter certaines options et à converger vers une solution. Sinon, vous n'éprouverez jamais ce sentiment gratifiant de complétude qui vient ponctuer l'instant où vous appuyez sur le bouton « Envoyer » ou « Publier » ou celui où vous vous détournez de votre toile ou de votre écran en sachant que vous avez fini ce que vous aviez entrepris. La convergence nous oblige à éliminer des options, à faire des choix et à décider de ce qui est essentiel. À ce stade, il s'agit de réduire le champ des possibles pour avancer et arriver à un résultat dont on peut être fier. La convergence permet à votre travail de prendre vie et de devenir autonome par rapport à vous. Le modèle de la divergence-convergence est essentiel à tout travail créatif, quel que soit son domaine d'application. Les écrivains divergent en amassant du matériau pour leurs histoires, en ébauchant des personnages, en recherchant des faits historiques. Ils convergent en élaborant une intrigue, en en détaillant des points particuliers et en rédigeant un premier jet. Les ingénieurs divergent en réfléchissant à toutes les solutions possibles à un problème donné, dont ils vont tester les limites ou en évaluant de nouveaux outils. Ils convergent lorsqu'ils choisissent une approche particulière, détaillent sa mise en œuvre et mettent leur plan à exécution. Les designers divergent quand ils collectent des échantillons et des modèles, quand ils discutent avec des utilisateurs pour comprendre leurs besoins ou quand ils représentent les solutions éventuelles avec des esquisses. Ils convergent en décidant du problème à résoudre, en construisant des maquettes ou en traduisant leurs conceptions en fichiers graphiques. Les photographes divergent en prenant en photo tout ce qui les intéresse, en juxtaposant différents types de clichés, en expérimentant avec de nouveaux éclairages ou cadrages. Ils convergent en sélectionnant les photos qui composeront une collection, en archivant les images inutilisées et en imprimant leurs préférées. Si nous superposons les quatre étapes de la méthode CODE au modèle de la divergence-convergence, nous obtenons un modèle de processus créatif puissant adapté à notre époque. Les deux premières étapes de CODE, captées et organisées, sont associées à la divergence. Elles consistent à rassembler les graines d'imagination portées par le vent et à les emmagasiner en lieu sûr. C'est à ce moment-là que vous faites des recherches, que vous explorez et que vous accumulez des idées. Les deux étapes suivantes, distiller et exprimer, font partie de la phase de convergence. C'est là que nous fermons la porte à de nouvelles idées et que nous commençons à construire quelque chose à partir des briques de connaissances déjà constituées. Les trois stratégies que j'utilise pour donner corps à un travail créatif. Votre second cerveau est un allié puissant pour vous aider à surmonter le défi universel du travail créatif. Se poser pour se lancer sans avoir la moindre idée de par où commencer. Devriez-vous faire des recherches plus étendues ou d'abord organiser celles dont vous disposez déjà? Feriez-vous mieux d'élargir vos horizons ou au contraire de réduire l'envergure de votre projet? Vaut-il mieux commencer quelque chose de nouveau ou finir un projet en cours? Quand vous distinguez clairement la divergence de la convergence, chaque fois que vous vous mettez au travail, vous pouvez décider du mode dans lequel vous souhaitez vous placer, ce qui répondra aux questions précédentes. En mode divergence, vous voudrez élargir vos horizons et explorer toutes les options possibles. Ouvrez portes et fenêtres, cliquez sur chaque lien, sautez d'une source à une autre et laissez-vous porter par votre curiosité. Si au contraire, vous décidez de passer en mode convergence. Faites le contraire. Fermez la porte, mettez un casque anti-bruit, ignorez toute nouvelle information et cherchez résolument à boucler votre projet pour savourer la satisfaction de savoir que vous avez touché au but. Soyez persuadé que vous avez accumulé suffisamment d'idées et de sources et qu'il est temps de vous concentrer sur votre objectif. Des deux étapes de ce processus, la convergence est celle qui donne le plus de fil à retordre. Plus vous serez imaginatif et curieux, plus vos centres d'intérêt seront diversifiés, plus vous serez exigeant envers vous-même et perfectionniste, plus vous aurez du mal à passer du mode divergence au mode convergence. Abandonner des options et choisir une voie plutôt qu'une autre est déplaisant. Il y a une sorte de douleur créative à voir une idée que vous savez pleine de potentiel être éliminée d'un scénario ou d'une histoire. C'est ce qui rend ce type de travail difficile. Quand vous vous posez pour terminer quelque chose, qu'il s'agisse d'un email explicatif, du design d'un nouveau produit, d'un rapport de recherche ou d'une stratégie de collecte de fonds, il peut être très tentant de faire plus de recherches. En effet, quoi de plus facile que d'ouvrir des dizaines d'onglets dans un navigateur, de commander d'autres livres ou de partir dans une nouvelle direction? Ces actions sont séduisantes parce qu'elles donnent le sentiment d'être productif et de progresser, alors que ce ne sont que des distractions qui retardent l'achèvement du projet. Pour vous éviter de tomber dans les pièges associés à la convergence, et vous permettre de mener à bien vos projets créatifs, vous pouvez faire appel à trois stratégies puissantes. Chacune d'elles repose sur l'existence d'un second cerveau où vous pourrez manipuler et façonner les informations sans craindre qu'elles ne disparaissent. Vous pourrez y recourir chaque fois que vous aurez besoin de vous sortir d'une ornière, de contourner un obstacle ou de décider de la marche à suivre. L'archipel des idées. Créer des ponts. La technique de l'archipel des idées est intéressante pour démarrer un travail, qu'il s'agisse d'un guide pratique, d'un atelier de formation, d'un brief pour un nouveau projet ou d'un article que vous comptez publier sur votre blog. Cela vous donne le moyen de planifier vos progrès, même quand vous vous attelez à des tâches par nature imprévisibles. Le nom de cette technique est tiré d'une citation de Steven Johnson, auteur d'une série de livres fascinants sur la créativité, l'innovation et la théorie des idées. Alors qu'il était interviewé par Danny Cho pour son article « DIY How to Write a Book », Steven Johnson expliquait « Au lieu de subir l'angoisse de la page blanche, je me trouve face à un document qui reprend des extraits de lettres de sources originales, d'articles universitaires ou de mes propres notes. C'est une technique très efficace pour faire taire les sirènes de la procrastination. Avant d'adopter cette approche, il m'arrivait de caler pendant des semaines devant l'écriture d'un nouveau chapitre qui était comme un gouffre ouvert devant moi. À présent, chaque chapitre prend vie comme une sorte d'archipel de citations inspirantes, ce qui en rend la rédaction moins intimidante. Tout ce que j'ai à faire, c'est de jeter des ponts entre ces îles. » Un archipel est une chaîne d'îles, généralement le fruit d'une activité volcanique courant sur des milliers d'années. Hawaï, par exemple, est composé d'un archipel de 8 îles qui s'étendent sur plus de 2400 km dans l'océan Pacifique. En phase de divergence, pour créer un archipel d'idées, vous devez commencer par compiler des positions, des sources, des pensées qui formeront la colonne vertébrale de votre essai, présentation ou livrable. Ce n'est qu'une fois que vous disposerez d'une masse critique de matériaux à manipuler que vous vous mettrez en mode convergence pour les lier d'une manière qui fait sens. Imaginons une note contenant un archipel d'idées que j'ai créé pour m'aider à écrire un article de fond sur des mementos pour mon blog. Il y a des liens surlignés qui apparaissent en vert dans mes notes et qui sont mes sources d'informations. Cliquer sur l'un d'entre eux ne me conduira pas vers le site web lui-même où je risquerai facilement d'être distrait, mais à une autre note, également stockée dans mon second cerveau, qui reprend le contenu in extenso. Je trouverai là tous les détails dont j'aurai besoin, ainsi qu'un lien vers la source originale. Sous chaque source, je n'ai copié et collé que les points que je compte reprendre dans mon article. Cet archipel d'idées inclut du matériau externe, comme dans l'exemple précédent, mais aussi des notes sur mes réflexions et mes expériences. Je profite ainsi du meilleur des deux mondes. Je peux me concentrer uniquement sur les informations que j'ai sous les yeux, tout en sachant que tous les détails supplémentaires dont je pourrais avoir besoin sont à portée de main. Les passages que j'ai mis en gras et surlignés quand j'ai constitué mes résumés progressifs me permettent de saisir l'essentiel de ce contenu en un clin d'œil. Travailler votre archipel des idées sur un support numérique plutôt que sur du papier offre de nombreux avantages. Il est beaucoup plus malléable et flexible. Vous pouvez ajouter ou supprimer des puces, les réorganiser, les développer, mettre des mots en gras et surligner des passages, et aussi les modifier après coup en fonction de l'évolution de votre réflexion. Il peut renvoyer à des contenus plus détaillés. Au lieu d'essayer de faire tenir la moindre information sur une page, vous pouvez créer des liens vers vos notes personnelles et vers des ressources publiques sur le web, ce qui permet de ne pas surcharger votre plan avec trop de détails. Il est interactif et multimédia. Vous pouvez ajouter non seulement du texte, mais aussi des images, des gifs, des vidéos, des pièces jointes, des diagrammes, des cases à cocher, etc. Il se prête aux recherches, même s'il est long. Vous disposez d'une fonction de recherche puissante qui vous permet de trouver en un instant un terme donné. Il peut être consulté, complété et modifié de n'importe où. Contrairement à une feuille de papier dans un carnet, l'archipel numérique est synchronisé avec chacun de vos appareils. Créer un archipel d'idées sépare les deux activités que votre cerveau a le plus de mal à mener de front. Sélectionner des idées et les organiser selon un flux logique. Cette dernière activité étant également appelée séquençage. S'il est si difficile de les mettre en œuvre simultanément, c'est qu'elles font appel à différents modes de pensée. Alors que la sélection est une activité divergente qui demande une grande ouverture d'esprit, le séquençage est une activité convergente qui requiert de la concentration sur les matériaux dont vous disposez et une certaine imperméabilité au monde extérieur. En vous aidant à démarrer votre projet avec une série d'îlots qui guideront vos efforts, l'archipel vous évitera le stress de la page blanche. Tout d'abord, vous sélectionnerez les points et les idées que vous souhaitez inclure, puis vous les réarrangerez de façon qu'ils s'enchaînent logiquement. Vous serez ainsi, à chaque étape, beaucoup plus efficace, moins empêché et moins susceptible de vous interrompre. Au lieu de vous lancer dans votre projet dans une situation de pénurie, vous le ferez dans l'abondance, celle des précieux enseignements que vous aurez emmagasinés dans votre second cerveau.